Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire les lettres sur le yoga, la première partie de Sri Aurobindo. Le titre de ma lecture s'appelle « Le yoga intégral et autres sentiers ». Vous décrivez la vie humaine riche et égoïste que vous auriez pu mener et vous dites « Ce n'était pas une vie tout à fait pitoyable, vous l'admettez ». Sur le papier, elle paraît même très brillante et satisfaisante telle que vous la décrivez. Mais elle ne contient pas de satisfaction réelle ou définitive, sauf pour ceux qui sont trop vulgaires ou superficiels pour chercher autre chose. Et même eux ne sont pas réellement satisfaits ou heureux. Et à la fin, cela devient fatigant et insipide. Le chagrin et la maladie, le conflit et la lutte, les déceptions, les désillusions et toutes sortes de souffrances humaines viennent et font voler en éclats son brillant. Et ensuite, c'est la décrépitude et la mort. C'est la vie vitale égoïste telle que l'homme l'a rencontrée à travers les âges. Et pourtant, c'est ce que regrette cette partie de votre vital. Comment ne voyez-vous pas, quand vous insistez tant sur les avantages d'une conscience purement humaine, que son signe distinctif est la souffrance? Quand le vital résiste au changement de la conscience humaine en conscience divine, c'est qu'il défend et son droit au chagrin, à la souffrance et à tout le reste agrémenté, soulagé sans aucun doute par quelque plaisir et satisfaction du vital ou du mental, mais très partiellement soulagé par eux et seulement pour un temps. Dans votre cas, vous commenciez réellement à être blasé et c'est pourquoi vous vous en êtes détourné. Il y a certainement les joies de l'intellect et de la création artistique, mais un homme ne peut pas être seulement un artiste. C'est la partie vitale inférieure, extérieure, très humaine, dans presque tous, qui est la plus revendicatrice et la plus insistante. Mais qu'est-ce qui était insatisfait en vous? C'était l'âme à l'intérieur. Tout d'abord, et à travers elle, le mental supérieur et le vital supérieur. Pourquoi donc reprocher au divin de vous avoir fourvoyé quand elle a tourné vers le yoga et vous a amené ici? Elle ne faisait que répondre à l'exigence de votre propre être intérieur et des parties supérieures de votre nature. Si vous avez tant de difficultés et que vous devenez agité, c'est parce que vous êtes encore divisé et quelque chose dans votre vital inférieur regrette encore ce qu'il a perdu et demande comme un prix son adhésion, comme une compensation, prix qui lui aurait dû être payé immédiatement. Quelque chose de similaire et d'équivalent dans la vie spirituelle. Il refuse de croire qu'il y a une compensation plus grande, une vie vitale plus large qui l'attend, quelque chose de positif, où il n'y aura plus l'ancienne inadaptation, l'ancienne agitation, l'ancienne insatisfaction finale. La sottise n'est pas dans la direction divine, mais dans la résistance irrationnelle et obstinée de cette partie confuse et obscure de vous-même, à ce qu'exige non seulement ce yoga-ci, mais tout le yoga, comme condition nécessaire à la satisfaction de l'aspiration de votre propre âme et de votre nature supérieure. La conscience vitale humaine s'est toujours déplacée entre ces deux pôles. La vie vitale ordinaire qui ne peut satisfaire et le retrait de cette vie dans une solution évidemment ascétique. L'Inde s'est donnée pleinement à ce mouvement de bascule. L'Europe commence une fois de plus, après un essai complet, à sentir l'échec de la vie vitale purement égoïste. Les yogas traditionnels auxquels vous faites appel se fondent sur le mouvement entre ces deux pôles. D'un côté se tiennent Shankara et Bouddha. Et la plupart vont, sinon par la même voie, du moins dans la même direction. De l'autre, on trouve les voies vishnouïtes ou tantriques qui essayent de combiner l'ascétisme avec quelques sublimations de l'impulsion vitale. Et où finissent ces voies? Elles retombent à l'autre pôle, à l'invasion vitale et même à la corruption et à la perte de leur esprit. À l'heure actuelle, le mouvement général tend vers un essai de réconciliation. Mais avez-vous quelquefois fait allusion à certains de ces protagonistes de cette tentative et demander mon opinion sur eux? La vôtre était défavorable. Mais ces hommes ne sont pas de simples charlatans. S'il y a quelque chose de mauvais en eux, sur ce quoi je ne me prononce pas, ce ne peut être que parce qu'ils sont incapables de résister à l'attirance magnétique de ce pôle inférieur de la nature, du désir vital et égoïste. Et s'ils sont incapables de résister, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la vraie force qui non seulement neutralisera cette attirance et empêchera la détérioration et la chute, mais transformera, utilisera, satisfera leur propre vérité plus profonde, au lieu de détruire et de jeter au loin la force de vie et l'incarnation dans la matière. Car cela ne peut être fait que par le pouvoir supramental et nul autre. Vous invoquez les traditions tantriques vishnouïtes, Chaitanya, Ramprasad, Ramakrishna. Je les connais un peu et si je n'ai pas essayé de les répéter, c'est parce que je n'y trouve pas la solution, la réconciliation que je cherche. Cette citation de Ramprasad ne m'aide pas le moins du monde et elle n'appuie pas non plus votre thèse. Ramprasad ne parle pas du divin incarné, mais d'un divin sans corps et invisible, sauf pour l'expérience intérieure en une forme subtile. Quand il parle de maintenir sa plainte ou son procès contre la mère, jusqu'à ce qu'elle le hisse sur ses genoux, il ne parle d'aucun contact vital ou physique, mais d'une expérience psychique intérieure. Précisément, il proteste contre le fait qu'elle le laisse dans la nature vitale et physique extérieure et insiste pour qu'elle l'amène jusqu'au plan psychospirituel en union spirituelle avec elle. Tout cela est très bien et très beau, mais ce n'est pas suffisant. L'union doit en effet être réalisée d'abord dans l'expérience psychospirituelle intérieure, parce que sans cela, rien de solide ni de durable ne peut être fait. Mais il doit y avoir aussi une réalisation du divin dans la conscience extérieure et la vie. Dans le plan vital et dans le plan physique, selon leur propre mode essentiel. C'est ce que vous demandez, sans que votre mental le comprenne ou comprenne comment cela doit être fait. Et c'est ce qui demande, ce que je demande aussi. Seulement, je vois la nécessité d'une transformation vitale. Tandis que vous semblez penser, exiger que ce soit fait sans aucune transformation radicale, en laissant le vital tel qu'il est. Au début, avant de découvrir le secret du supramental, j'ai essayé moi-même de chercher la réconciliation à travers une association de la conscience spirituelle avec le vital. Mais mon expérience et toutes les expériences montrent que cela ne mène à rien de définitif et de final. Cela finit comme cela avait commencé, à mi-chemin entre deux pôles de la nature humaine. Une association n'est pas suffisante. Une transformation est indispensable. La tradition de la bhakti vishnouite tardive est une tentative de sublimer les impulsions vitales par l'amour, en tournant l'amour humain vers le divin. Ce fut un effort puissant et intense qui a amené bien des expériences riches et belles, mais sa faiblesse résidait précisément dans le fait qu'elle restait valable comme une expérience intérieure, tourner vers le divin intérieur et s'arrêter à ce point. Le préma de Chaitanya n'est qu'un amour divin psychique, accompagné d'une forte manifestation vitale sublimée. Mais dès l'instant où le vishnouisme, avant ou après lui, tenta une plus grande extériorisation, nous savons ce qui est arrivé, une détériorisation vitale, beaucoup de corruption et le déclin. Vous ne pouvez pas invoquer l'exemple de Chaitanya par opposition à l'amour psychique ou divin. Son amour n'était pas seulement humain et vital dans son essence, sinon dans sa forme. C'est bien le premier pas de la transformation que nous demandons aux sadhaks. Rendre leur amour psychique et utiliser le vital non pour lui-même, mais comme une expression de la réalisation de l'âme. C'est le premier pas, et peut-être pour certains est-il suffisant, car nous ne demandons pas à tout le monde de devenir supramental. Mais pour toute manifestation complète sur le plan physique, le supramental est indispensable. Dans la tradition vishnouite tardive, la sadhana prend la forme d'une application au divin de l'amour vital humain. Dans toutes ses tendances principales, viraha, abhimana, même la séparation complète, comme le départ de Krishna à Mathura, deviennent des éléments essentiels de ce yoga. Mais tout cela n'était pas compris. Dans la sadhana elle-même, non dans les poèmes vishnouites, que comme un passage dont l'issue est milana, ou l'union complète. Mais l'accent mis pour certains sur les éléments indisciplinés paraîtrait presque faire de la lutte, de la séparation, de l'abhimana, le procédé tout entier, sinon le but même de ce genre de prema yoga. Ici encore, cette méthode n'était pas appliquée qu'au divin intérieur, non, ou à un divin incarné physiquement, et se référer à certains états, à un divin incarné physiquement, et se référer à certains états, à certaines réactions de la conscience intérieure dans sa recherche du divin. Dans les relations avec la manifestation divine incarnée, ou, puis-je ajouter, dans les relations du disciple avec le gourou, des choses de ce genre peuvent se produire comme un résultat de l'imperfection humaine, mais elles ne font pas partie de la théorie de ces relations. Je ne pense pas qu'elles formaient une partie normale et autorisée des relations entre le bhakta et le gourou. Au contraire, la relation du disciple envers le gourou, dans le guru-vada, est toujours censée être faite d'adoration, de respect, d'une confiance complète et heureuse, d'une acceptation inconditionnelle de la direction. L'application des relations vitales inchangées envers le divin incarné peut conduire et conduit à des mouvements qui n'induisent pas au progrès dans le yoga. Le yoga de Ramakrishna n'était de même tourné que vers une réalisation intérieure du divin intérieur, rien de moins, mais rien de plus. Je crois que la phase de Ramakrishna sur les revendications du sadhak à l'égard du divin, pour qui il a tout sacrifié, était l'affirmation d'une revendication intérieure et non extérieure sur le divin intérieur plutôt que sur un divin incarné physiquement. C'est l'exigence d'une union spirituelle complète. L'amant de Dieu cherchant le divin, mais le divin se donnant aussi lui-même et venant à la rencontre du divin amant. Il ne peut y avoir aucune objection à cela. Tous les chercheurs du divin ont cette exigence. Mais quant aux modalités de la rencontre divine, cela ne nous mène pas beaucoup plus loin. En tout cas, mon objectif est une réalisation sur le plan physique et je ne puis me contenter de répéter Ramakrishna. Je crois aussi me souvenir qu'il s'est longtemps retiré en lui-même. Il n'a pas passé toute sa vie avec ses disciples. Il a eu d'abord sa siddhi alors qu'il était retiré. Et quand il est sorti et a reçu des gens, eh bien, en quelques années, son corps en a été usé. À cela, je suppose qu'il n'avait d'aucune objection, car il a même énoncé une théorie alors que Krishna Chandra était mourant, selon laquelle l'expérience spirituelle doit user le corps. Mais en même temps, quand on lui demandait pourquoi il avait une maladie de la gorge, il répondait que c'était les péchés que ses disciples jetaient sur lui et qu'il était obligé d'avaler. Ne me satisfaisant pas, comme lui, d'une libération seulement intérieure, je ne puis accepter ses idées ou ses résultats. Cela ne me paraît pas être une rencontre réussie avec le divin et les sadhaks sur le plan physique, quel qu'en soit le succès pour sa vie intérieure. Krishna Sri Bhagavan Krishna a fait de grandes choses et est très, très clairement une manifestation du divin. Mais je me rappelle un passage du Mahabharata dans lequel il se plaint de la vie agitée que ses disciples et ses adorateurs lui font mener et leurs exigences constantes, leurs reproches de ce qu'ils jettent sur lui, leur nature vitale non régénérée. Dans la Gita, il parle de ce que le monde humain comme d'une affaire transitoire et douloureuse et en dépit de son évangile d'action divine semble presque admettre que le quitter est après tout la meilleure solution. Les traditions du passé sont très grandes à leur place, dans le passé. Mais je ne vois pas pourquoi nous devrions nous contenter de les répéter sans aller plus loin. Dans le développement spirituel de la conscience sur la terre, le grand passé doit être suivi d'un plus grand avenir. Il y a un écueil que vous semblez tous ignorer complètement. Les difficultés de l'incarnation physique et de la réalisation divine sur le plan physique, pour la plupart, il semble n'y avoir qu'une seule alternative où le divin descend avec son plein pouvoir et la chose est faite, pas de difficultés, pas de conditions nécessaires, pas de loi, ni de procédé, rien que le miracle et la magie. Ou alors, eh bien, cela ne peut pas être le divin. De nouveau, vous insistez tous, ou presque tous, pour que le divin devienne humain, reste dans la conscience humaine. Et vous protestez contre la tentative de rendre l'humain divin. D'autre part, il s'élève une clameur de déception, d'étonnement, de défiance, peut-être d'indignation. S'il y a des difficultés humaines, s'il y a une tension dans le corps, une lutte incertaine contre les forces adverses, des obstacles, des retards, des maladies, et quelques-uns commencent à dire « Oh, il n'y a rien de divin là-dedans !» Comme si l'on pouvait rester vitalement et physiquement dans la conscience humaine individuelle, non transformée. En contact inchangé avec elle, satisfaire ses exigences et pourtant être à l'abri, en toutes circonstances et en toutes conditions, de la tension, de la lutte et de la maladie. Si je veux diviniser la conscience humaine, faire descendre le supramental, la conscience de vérité, la lumière, la force, dans le physique, pour le transformer, y créer une plus grande plénitude de vérité, de lumière, de pouvoir et de béatitude et d'amour. La réponse est répulsion, peur, ou même volonté, ou bien on doute que ce soit possible. D'un côté, on exige que la maladie et le reste soit impossible. De l'autre, on rejette violemment la seule condition par laquelle il pourrait devenir impossible. Je sais que c'est là l'incohérence naturelle du mental et vital humain, qui veut à la fois deux choses incohérentes et incompatibles. C'est bien la raison pour laquelle il est nécessaire de transformer l'humain et de mettre à la place quelque chose d'un peu plus lumineux. Mais le divin est-il donc quelque chose de si terrible, de si horrible ou de si repoussant que l'idée de son entrée dans le physique, de sa divinisation de l'humain crée ce recul, ce refus, cette révolte ou cette peur? Je puis comprendre que le vital non régénéré, attaché à ses propres drames, mesquines, ses plaisirs mesquins, souffrances, aux drames brefs et ignorants de la vie, recule devant ce qui va le changer. Mais pourquoi un amant de Dieu, un chercheur de Dieu, un sadhak craint-il la divinisation de la conscience? Pourquoi refuse-t-il de devenir un en nature avec ce qu'il cherche? Pourquoi reculerait-il devant sa drishita mukti? Derrière cette peur, il y a habituellement deux causes. D'abord, le vital sent qu'il devra cesser d'être obscur, grossier, bourbeux, égoïste, non raffiné spirituellement, plein de désirs stimulants, de petits plaisirs, de souffrances intéressantes, car il recule même devant l'ananda qui remplacera cela. Ensuite, le mental a une idée vague et ignorante due, je suppose, à la tradition ascétique que la nature divine est quelque chose de froid, de nu, de vide, d'austère, de lointain, sans les glorieuses richesses de la vie humaine, vitale et égoïste. Comme s'il n'y avait pas un vital divin, comme si ce vital divin n'était pas lui-même d'une plénitude infinie, comme si, quand il aura le moyen de se manifester, il ne devrait pas rendre la vie infiniment plus pleine de beauté, d'amour, de rayonnement, de chaleur, d'intensité et de passion divine et de capacité de béatitude que l'actuelle vitalité impotente, souffrante, petitement et temporairement excitée et vite fatiguée de la création humaine encore si imparfaite. Mais direz-vous que ce n'est pas devant le divin que vous reculez. Vous l'acceptez plutôt et vous le demandez pourvu qu'il ne soit pas trop divin. Mais vous vous élevez contre le supramental grandiose, lointain, incompréhensible, inaccessible, une sorte d'austère nirakar brahman. Le supramental ainsi décrit est un épouvantail créé par cette partie de votre mental vital pour se faire peur à lui-même et justifier son attitude. Derrière cette description étrange, il semble y avoir l'idée que le supramental est une nouvelle version du Parabrahman védantique, centré et incommunicable, vaste, grandiose, froid, vide, lointain, dévastateur, écrasant. Mais ce n'est pas exactement cela. Évidemment, puisqu'il peut descendre, mais dans la pratique, c'est aussi mauvais. Il est curieux que vous admettiez que votre ignorance de ce que le supramental peut être, et que cependant, quand vous êtes dans cette humeur, non seulement vous vous prononcez catégoriquement sur ce qu'il est, mais rejetiez passionnément mon expérience comme si elle n'avait aucune valeur pratique ou n'avait aucune valeur pour qui que ce soit, sauf moi. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas répondu occasionnellement parce que je ne vous demande pas d'être dès maintenant non humain et divin, moins encore d'être supramental. Comme vous revenez toujours à ce point et que vous êtes en but à ces attaques et que vous en êtes le pivot ou du moins l'été principal de cette dépression, je suis obligée de répondre. Le supramental n'est pas grandiose, lointain, froid et austère. Ce n'est pas quelque chose qui est opposé à une pleine manifestation vitale et physique ou incompatible avec elle. Au contraire, il porte en lui la seule possibilité de plénitude totale de la force vitale et de la vie physique sur terre. C'est parce qu'il est ainsi, parce qu'il m'a été ainsi révélé, et pour aucune autre raison, que je l'ai poursuivi et que j'ai persévéré jusqu'à que je vienne en contact avec lui et que je sois capable de le faire descendre de son pouvoir et de son influence. Je me soucie de la terre, non des mondes au-delà. Pour ceux, par la logique, ni conformément à la logique, ni qu'aucune espèce l'ait été jamais. Mais pourquoi l'idée de la création d'une espèce nouvelle serait-elle illogique? Quant aux prophètes du passé, ils ne me dérangèrent pas. S'il est troublant de dépasser les expériences des prophètes et des sages d'autrefois, chaque nouveau prophète, chaque nouveau prophète, et sage d'autrefois, sont à leur tour une chose troublante. Tous ont commis une mauvaise action. Autrement, à quoi servirait-il qu'ils lancent de nouvelles philosophies, de nouvelles religions, de nouvelles écoles de yoga? Si c'était simplement il vérifiait et répétait benoîtement la vie et les expériences des prophètes et des sages du passé sans apporter au monde quelque nouveauté. Pourquoi tout ce remue-ménage et cette agitation? Tous les autres yogas considèrent cette vie comme une illusion, une phase transitoire. Seul le yoga supramental la considère comme une chose créée par le divin, par une manifestation progressive et s'assigne pour but la plénitude de la vie et du corps. Le supramental est simplement la conscience de vérité et ce qu'il apporte dans sa descente est la pleine vérité de la vie. La pleine vérité de la conscience dans la matière. Il faut véritablement s'élever à de hauts sommets pour l'atteindre. Mais plus on s'élève, plus bas on peut le faire descendre. Sans aucun doute, la vie et le corps, ne sont pas voués à demeurer ignorants, imparfaits, impuissants, tels qu'ils sont maintenant. Mais pourquoi un changement ? Vers un pouvoir de vie, un pouvoir corporel plus complet serait-il considéré comme quelque chose de lointain, de froid et d'indésirable ? L'ananda suprême, dont le corps et la vie sont maintenant capables, est une brève excitation du mental vital, des nerfs ou des cellules, qui est limitée, imparfaite, et passe rapidement avec le changement supramental toutes les cellules, les nerfs, les forces vitales, les forces mentales incarnées peuvent se remplir d'un ananda centuplé, capable d'une intensité de béatitude indescriptible et qui ne disparaît pas nécessairement. Comme c'est lointain, repoussant et indésirable, l'amour supramental entraîne une unité intense d'âme à âme, de mental à mental, de vie à vie, et une submersion entière de la conscience du corps par l'expérience physique de l'unité, la présence de l'être aimé dans toutes les parties, toutes les cellules du corps. Est-ce lointain et grandiose et indésirable? Avec le changement supramental, la chose même sur laquelle vous insistez, l'éventualité d'une libre rencontre physique du divin incarné avec le Sadak, sans conflit de force et sans réaction indésirable, devient possible, sûr et libre. Cela aussi, je suppose, lointain et indésirable. Je pourrais continuer sur des pages et des pages, mais c'en est assez pour le moment. La base du supramental est un calme absolu, et quelle que soit l'intensité de l'amour divin qu'il contient, elle ne trouble pas le calme, mais l'approfondit. Chaitanya n'a pas eu l'expérience du supramental, mais celle de l'amour et de l'ananda apportée d'en haut, dans le vital qui répond par une passion et une exultation extrême d'amour pour le divin et d'ananda qui ont pour résultat ces vikaras. Chaitanya proclamait cette suprématie de l'expérience de Radha parce que l'ananda est plus élevé que les expériences du mental spirituel. L'ananda étant, selon les Upanishads, le plan suprême d'expérience. Mais c'est une conclusion logique qui ne peut être acceptée entièrement. Il faut traverser le supramental pour atteindre l'ananda le plus élevé. Et dans le supramental, il y a une unification et une harmonisation de tous les pouvoirs divins, connaissance autant qu'amour et ananda. Divers sadhaks proclament qu'un aspect ou l'autre est le plus élevé, mais c'est cette union de tous les aspects qui doit être la véritable base de la plus haute réalisation et de la plus haute expérience. Voilà. Je termine la lecture de ce chapitre, le yoga intégral et autres sentiers. Cela concerne les lettres sur le yoga, la première partie de Sri Aurobindo. Je remercie inconditionnellement toujours, Sri Aurobindo et douce mère, Ganga.